7h sur France Culture. Et à 7h, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La trêve humanitaire à Alep permet-elle aux Syriens de quitter les quartiers assiégés? Combien de temps cette trêve va-t-elle durer? C'est la confusion. Nous irons sur place dans ce journal.
Et pendant que les raids aériens sont suspendus à Alep, la Turquie bombarde des Kurdes qui luttent aussi contre Daesh. Pour quelle raison? Décryptage dans quelques instants.
En France, le chef de l'État va recevoir les syndicats de policiers pour tenter de mettre fin aux manifestations sauvages qui font tache d'huile depuis 4 nuits maintenant dans tout l'Hexagone, des rassemblements hors cadre syndical a priori. À 7h13, dans le biais économique, Marie Viennot reviendra sur la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne et les réactions paradoxales des marchés financiers.
Et la question du jour, nos centrales nucléaires sont-elles sûres? Et le sujet du jour, comment devient-on djihadiste?
La pause humanitaire décrétée par Moscou dans la ville d'Alep au nord de la Syrie est certes entrée en vigueur hier, mais presque aucun habitant des quartiers rebelles n'a encore emprunté les couloirs établis pour évacuer les civils et les rebelles. La durée même de cette trêve est source de confusion. Moscou l'a prolongée jusqu'à ce soir, mais selon l'ONU, la Russie suspendrait ses raids aériens jusqu'à demain soir. Alep, ville coupée en deux depuis 4 ans maintenant, les quartiers est aux mains des factions rebelles, l'ouest sous contrôle du régime de Bachar al-Assad, et ce découpage dû à la guerre a également séparé des familles alépines, comme l'a constaté notre envoyée spéciale Valérie Crova.
Elles sont 3 femmes, toutes vêtues de noir. Nous les croisons dans une rue commerçante d'Alep Ouest. D'abord méfiante, l'une d'entre elles accepte de répondre à quelques questions. Les 2 autres se tiennent à l'écart.
Vous avez de la famille de l'autre côté?
Oui, mon père et ma mère.
Est-ce que vos parents vous disent qu'il y a des bombardements importants?
Oui, les frappes visent aussi bien les rebelles que les civils, car ils vivent au milieu d'eux.
Ils vous parlent de mort, qu'il y a beaucoup de victimes?
Beaucoup de victimes. J'ai très peur pour mes parents et je voudrais qu'ils viennent ici. Ma mère fait tout son possible. Elle supplie les rebelles qu'ils les laissent sortir, mais ils refusent. Il n'y a pas seulement ma famille. Tous les gens là-bas ont préparé leurs valises et attendent de pouvoir partir. Mais les rebelles les prennent comme boucliers humains. Pas un mot sur la responsabilité de l'armée syrienne et celle de son allié russe. Dans la Syrie de Bachar el-Assad, se montrer critique à l'égard du régime n'est pas dénué de risques.
Valérie Crova, envoyée spéciale de France Culture à Alep. Le sort des 250 000 habitants assiégés dans les quartiers est de cette ville syrienne au menu d'une réunion hier soir des pays de l'Union européenne à Bruxelles. Les 28 disent envisager toutes les options disponibles si les atrocités commises dans la ville se poursuivent. Pression sur le régime syrien et sur son allié russe qui ont bombardé Alep depuis le 22 septembre dernier. Mais dans leur communiqué final, les 28 pays de l'Union ne mentionnent plus d'éventuelles sanctions contre les soutiens de Damas. Et dans le conflit syrien encore, conflit régional, hier, l'armée turque s'est engagée encore un peu plus profondément dans la guerre, son aviation bombardant lourdement les forces démocratiques syriennes, principalement constituées de Kurdes alliés des États-Unis dans leur lutte contre le groupe État islamique. Les Turcs et les Kurdes partagent un même objectif, reprendre la ville d'Al-Bab, le dernier fief des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, enjeu décrypté par Eric Biegala.
Al-Bab, 65 000 habitants avant-guerre, c'est l'une des toutes dernières villes d'importance contrôlées par l'État islamique en Syrie, à part Raqqa. La Turquie n'a pas fait mystère de sa volonté de s'en emparer, puisque le Premier ministre turc Binali Yildirim l'a très clairement désigné comme un objectif militaire la semaine dernière. Lancée le 24 août, l'opération turque baptisée Bouclier de l'Euphrate appuie avec son artillerie et ses chars lourds les avancées de rebelles syriens proches d'Ankara. Ceux-ci ont repris pas mal de terrain à l'État islamique ces dernières semaines, dont dernièrement le village symbolique de Dabik. Mais le but avoué des Turcs en Syrie est également d'empêcher les Kurdes d'opérer la jonction de leurs troupes entre les cantons d'Afrin à l'ouest et de Kobané à l'est. Ce qui leur conférerait une continuité territoriale sur une bonne partie de la zone frontière turco-syrienne, et ça, Ankara n'en veut à aucun prix. Entre les 2 cantons kurdes, il y avait 2 villes contrôlées par les djihadistes. Manbij, reprise par les Kurdes cet été, il reste aujourd'hui Al-Bab. Les forces de l'armée syrienne libre, appuyées par la Turquie, poussent donc depuis le début de la semaine vers le sud, vers Al-Bab. Mais dans le même temps, les forces démocratiques syriennes, essentiellement kurdes, poussent également vers Al-Bab, mais à partir de l'ouest, elles. C'est cette poussée-là, pro-kurdes que les raids aériens turcs ont tenté de stopper. Apparemment sans y parvenir, la course vers Al-Bab risque donc de se poursuivre. Actuellement, les deux parties attaquantes, pro-kurdes et pro-turques, se trouvent à respectivement 19 et 12 km du centre-ville.
Les forces kurdes engagées sur un autre front contre le groupe État islamique en Irak, des Peshmerga ont lancé l'assaut hier sur plusieurs villages tenus autour de Mossoul, la deuxième ville d'Irak contrôlée par les djihadistes. Et au quatrième jour de la vaste offensive des forces irakiennes et de la coalition internationale, le premier ministre irakien a affirmé que ses troupes progressaient plus vite que prévu vers Mossoul. Déclaration depuis Bagdad lors d'une vidéoconférence avec Paris. Une réunion se tenait hier en France pour préparer l'avenir politique de cette ville où sont piégées 1,5 million de personnes. Aux États-Unis, Donald Trump a tenté de corriger le tir accusé de saper la tradition démocratique américaine, notamment par le président Barack Obama, depuis qu'il a déclaré mercredi soir lors d'un débat télévisé qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats de la présidentielle le 8 novembre prochain. Hier, en meeting dans l'Ohio, le milliardaire a affirmé « J'accepterai un résultat clair de l'élection, mais je me réserve le droit de contester et de lancer une procédure de justice en cas de résultat douteux ». Pas de quoi réchauffer l'ambiance avec sa principale rivale, Hillary Clinton. La démocrate et le républicain se sont retrouvés cette nuit à un dîner de charité, le Al Smith Dinner, un événement mondain organisé par la communauté catholique de New York, devenu en 71 ans d'existence une sorte de tradition dans la vie politique américaine. L'occasion normalement pour les politiques de pratiquer l'autodérision, mais dans cette campagne présidentielle incroyablement agressive, l'animosité était palpable, Charlotte.
Depuis sept décennies, ce dîner de charité représente une occasion pour les candidats de se présenter comme le comédien en chef en maniant l'autodérision. À ce jeu-là, Donald Trump avait plutôt bien commencé.
Certains disaient que ce serait un exercice difficile pour moi, mais la vérité, c'est que je suis modeste, très modeste. En fait, plein de gens me disent que la modestie est ma meilleure qualité. Meilleur encore que mon tempérament.
Mais s'écartant de l'esprit de collégialité, le candidat républicain n'a pas pu s'empêcher d'attaquer frontalement sa rivale sous les huées de la salle, du jamais vu selon les observateurs.
Hillary est tellement corrompue qu'elle a été virée de la commission du Watergate.
Plus aguerrie à ce type d'exercice, Hillary Clinton a quant à elle rempli le cahier des charges en lançant des piques à Donald Trump sans agressivité.
Ce dîner rassemble tout un tas de républicains raisonnables, convaincus et traditionnels, ou comme on les appelle maintenant, des supporters d'Hillary.
Mais la bonne humeur affichée n'est pas parvenue à masquer l'animosité entre les candidats et au final, l'archevêque de New York, assis entre deux, a bien résumé l'ambiance. Je suis assis à l'endroit le plus glacial de la planète, mais où est le réchauffement climatique quand on a besoin de lui ?
Charlotte Alix à New York pour France Culture.
7h07, la suite du journal sur France Culture. Catherine Dutu, François Hollande annonce qu'il va recevoir les syndicats de policiers.
Ce sera en début de semaine prochaine pour tenter d'apaiser la colère entendue partout en France encore pour la quatrième nuit consécutive. Manifestation sauvage, un mouvement né d'une violente attaque au cocktail Molotov contre quatre policiers. C'était au début du mois à Viry-Châtillon dans l'Essonne. 500 agents ont manifesté encore cette nuit à Paris sur l'esplanade du Trocadéro, direction les Champs-Élysées. Ils ont tenté de rejoindre le ministère de l'Intérieur, mais ont finalement été bloqués par des gendarmes. Une délégation sera reçue place Beauvau aujourd'hui. Manifestation également en région parisienne, à Melun, Évry, Bobigny, mais également à Marseille, Toulouse, Carcassonne, Bordeaux, Montpellier, à Lyon, 600 à 800 policiers se sont rassemblés en plein centre-ville, place Bellecour, des agents venus de toute la région. Un rassemblement inédit pour un ras-le-bol, lui aussi sans précédent. Le témoignage de Fabrice, policier à Lyon depuis 17 ans.
Il y a des choses qui deviennent vraiment compliquées. On demande quoi aujourd'hui ? On demande des bagnoles dignes de ce nom pour travailler. Pas des Kangoo, pas des Berlingots, pas des voitures Playmobil, entre guillemets. On demande du monde à mettre dedans, on demande de l'équipement, on demande de la protection pour les collègues, on demande des armes, on demande la possibilité de faire son travail, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé de partir sur une urgence et d'arriver en courant au véhicule et le véhicule qui démarre pas. C'est courant. Mais un véhicule qui démarre pas, ouais, ça peut faire rire tout le monde, mais c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. C'est pas du blabla, c'est pas du pipeau. Ça nous touche vraiment profondément, en fait. Donc, on en arrive ici à être dans des heures tardives comme ça, sur la place Bellecour, aussi nombreux, c'est que les collègues sont touchés. Ce soir, c'est les policiers qui sont dehors, c'est des flics, hommes, femmes, c'est pas des syndicalistes.
Autre revendication portée également par les syndicats de policiers, une extension du régime de la légitime défense. Les précisions d'Antoine Marette.
En France, plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'il y ait légitime défense. Il faut subir une menace réelle et injustifiée, soi-même ou un tiers. La riposte doit être immédiate et elle doit être nécessaire et proportionnée. Ces règles sont les mêmes ou quasiment les mêmes pour les policiers et les civils. Quasiment, car depuis le 3 juin, la loi a ouvert très légèrement la légitime défense pour les policiers. Ils peuvent faire usage de leur arme pour empêcher la réitération d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis. Par exemple, un terroriste qui s'enfuit après avoir commis un crime. Mais le régime de légitime défense des policiers reste beaucoup moins souple que celui des gendarmes. Ces derniers ont le droit de tirer sur un suspect en fuite après plusieurs avertissements sans qu'il y ait de menace sur leur vie. Des syndicats de policiers, en particulier Alliance, souhaitent donner cette même protection juridique aux policiers. Idée reprise par une partie de la droite. Bernard Cazeneuve, qui a rencontré mercredi soir les syndicats, n'a pas apporté de réponse sur cette question. Mais dans le passé, il a plusieurs fois rappelé les principes des droits constitutionnels et européens, principes selon lesquels l'arme ne doit être utilisée qu'en ultime recours.
Les syndicats de policiers seront donc reçus en début de semaine prochaine à l'Élysée. Déclaration de François Hollande ce matin depuis Bruxelles, où le chef de l'État participe à un sommet européen. Un sondage inquiétant à présent, à 7 mois de l'élection présidentielle, plus d'un Français sur deux pense que les personnes exerçant des responsabilités importantes ou ayant du pouvoir sont, pour une grande partie d'entre elles, corrompues. C'est ce qui ressort d'un sondage Harris Interactive pour l'association Transparency International, publié hier. Pour plus de 70% des personnes sondées, même, la suspicion touche les députés. Ludovic Piétenu a interrogé l'Institut Harris Interactive, auteur de cette enquête, et le directeur de son département politique et opinion, Jean-Daniel Lévy.
Première interrogation, c'est sont-ils vraiment à l'écoute de nos préoccupations ou sont-ils plus dans leur cercle de proximité qui les empêche d'être véritablement le reflet de ce que nous pensons les Français. Et puis le deuxième aspect, dans un moment où il y a des interrogations autour du poids des lobbies, des grands industriels, le sentiment qu'avec un repas, le sentiment qu'avec des cadeaux, on est parfois aux responsabilités plus pour se servir que pour servir l'intérêt général. Donc on voit cet aspect-là qui existe, on a le sentiment que ça traverse l'ensemble des responsables politiques, on dit que c'est une dimension qui doit au final s'améliorer, mais sans pour autant être en capacité de pouvoir avec assurance dire au moins ce responsable politique est un responsable politique honnête et intègre, et donc une dilution généralisée à l'égard de la majeure partie des candidats aux différentes élections.
Il y a un paradoxe français un peu quand même.
Un paradoxe français dans un pays qui est un pays un peu de tradition catholique, qui va avoir tendance à séparer ce qui relève de la vie privée de l'exercice public en tant que tel. On va juger un responsable politique déjà pour ce qu'il porte en tant qu'acteur politique et pour les valeurs qu'il peut être amené à porter, et pas forcément pour la manière dont il se comporte personnellement, ce qui est assez frappant. On l'avait vu au moment de l'affaire Cahuzac, le plus grand reproche qui était effectué à l'égard de Cahuzac, ça n'était pas l'acte en lui-même, mais c'était le fait qu'en tant que ministre en charge de la lutte contre la corruption, il avait menti concernant sa mission politique.
Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive sur ce sondage à propos de la suspicion des Français envers les politiques. Sondage qui a été publié hier, alors que paraît chez Michel Lafond un livre qui pointe les dérives des relations entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et des politiques. Nos très chers émirs, écrit par les journalistes Georges Marle Bruno et Christian Chéneau. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce vendredi 21 octobre, encore nuageux sur la moitié nord du pays avec des averses possibles. Du soleil, ce sera pour la moitié sud. Les températures comprises ce matin entre 3 et 10 degrés de l'intérieur vers les côtes. Cet après-midi, il fera entre 9 et 13 du nord-est au centre-est du pays, de 14 à 19 degrés partout ailleurs, jusqu'à 21 degrés près de la Méditerranée, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.